Et maintenant, des villes sobres, agiles et résilientes. C'est le thème des entretiens du cadre de ville qui se déroule ce jeudi 8 octobre depuis la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Un événement à suivre sur Radio Immo.
Les entretiens du cadre de ville se poursuivent en ce jeudi 8 octobre. Nous sommes en compagnie de Patrick Nossant. Bonjour Patrick.
Bonjour.
De l'Alliance HQE. Alors l'Alliance HQE, c'est une association reconnue d'utilité publique. Ce serait l'équivalent d'une fondation aux États-Unis. Précisez-nous les contours de cette action.
Alors c'est une association qui a été créée il y a 20 ans maintenant pour réunir tous les professionnels engagés dans l'amélioration du cadre de vie. En fait, l'objectif, c'est d'offrir un cadre de vie plus durable pour tous. Et donc nous publions ce qu'on appelle des cadres de référence, c'est-à-dire des documents qui vont guider l'ensemble des professionnels vers le chemin du développement durable. Donc des documents par exemple sur la définition de ce que c'est qu'un bâtiment durable, ce que c'est qu'un quartier durable, ce que c'est que l'économie circulaire, ce que c'est que le carbone appliqué à l'échelle d'une opération. Mais aussi nous avons donc tout un programme d'innovation collaborative qu'on appelle HQE Performance, qui permet d'être vraiment en prise avec la réalité du terrain. On a été les premiers au monde, par exemple, à faire des analyses de cycle de vie sur des centaines de bâtiments à échelle réelle sur l'ensemble du territoire français, ce qui ont permis donc de donner les premiers valeurs repères du poids carbone d'un bâtiment entre ce qui se passe en exploitation, ce qui se passe en construction, ce qui se passe au moment de sa démolition.
Démolition ou transformation aujourd'hui, hein, qui est un véritable enjeu. Alors on sait que le bâtiment, hein, je crois que c'est le deuxième émetteur, ou peut-être le deuxième après le transport, je crois, des gaz à effet de serre. C'est un enjeu majeur. Et d'ailleurs, Alliance HQE ne se cantonne pas à la France, vous rayonnez dans le monde entier.
Oui, au travers des partenariats qu'on a avec des organismes certificateurs, hein, puisque la HQE, c'est aussi une marque de certification qui touche à la fois les bâtiments, les infrastructures et les territoires durables. Nous sommes actifs dans 26 pays, et notamment donc au Brésil, au Maroc, en Chine, où nous sommes vraiment très 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 actifs.
On verra tout à l'heure un petit exemple. Parlez-nous justement des programmes de recherche sur les quartiers énergie bas carbone. C'est vrai que ça a le vent en poupe en ce moment et pour cause. Où est-ce que vous en êtes? Quelles sont les best practices, comme on dit en anglais, les meilleures pratiques aujourd'hui?
Alors, nous travaillons dans une approche multicritère. C'est vraiment, ça fait partie de notre ADN. C'est-à-dire qu'on ne se focalise pas sur le carbone, on va travailler sur un ensemble d'indicateurs qui vont de la qualité de vie, c'est-à-dire la santé, le confort, l'environnement, donc l'énergie, le carbone, mais aussi la performance économique et le management responsable. Ceci dit, le carbone est évidemment incontournable et indispensable. Et tout ce qu'on a pu faire à l'échelle du bâtiment, on ne peut pas le transposer aussi directement à l'échelle du quartier. Or, beaucoup de choses se jouent à l'échelle du quartier. Bien sûr, dans un quartier bas carbone, il faut des bâtiments bas carbone. Mais pas seulement. Il faut prendre en compte la problématique du transport, comme vous le dites, mais aussi des services. Mais aussi peut-être de la production, de l'industrie. On parle de relocalisation de l'industrie en France. Évidemment, si vous avez une industrie dans votre quartier, c'est bon pour l'emploi. Qu'est-ce que ça dit sur le carbone? Donc on a besoin d'inventer une nouvelle façon de concevoir le carbone. Et on prend en compte, dans un programme de recherche donc, qui est financé par l'ADEME, dans lequel on a des centres de recherche comme le CSTB, on va avoir des associations comme l'Alliance HQE, mais aussi des certificateurs comme Certivea. On va travailler sur une nouvelle métrique de carbone à l'échelle du quartier et on va la ramener à l'individu. Un individu, c'est 11, un Français, c'est 11 tonnes de carbone d'émissions par an.
11 tonnes par an.
11 tonnes par an.
Et par Français.
Et par Français. Et on regarde quel est le poids le plus important.
Ouais.
Et le poids le plus important, c'est le transport. Sur l'énergie, c'est le bâtiment, mais sur le carbone, c'est le transport. Pourquoi? Parce que dans les bâtiments, on a de l'énergie décarbonée, beaucoup.
Bien sûr.
Alors que dans les transports, pas tout à fait encore. Donc on a les transports qui sont au numéro 1, on a les bâtiments qui sont au numéro 2, mais on a aussi l'alimentation, les loisirs, les services, etc., qui ont leur poids carbone et qui dépendent de la façon dont le quartier est conçu.
Ouais.
On parle beaucoup de la ville du quart d'heure. Le quart d'heure, ce n'est pas seulement pour gagner du temps, c'est aussi, bien sûr, pour gagner des déplacements. Si on peut aller à pied faire ses courses, si on peut aller à pied travailler, si on peut aller à pied au loisir.
On diminue notre empreinte.
On diminue notre empreinte carbone, donc ouais. On a besoin d'avoir une vision globale, holistique du quartier pour réduire l'impact carbone.
Patrick Nossan, je reviens sur ce chiffre là, 11 tonnes par an, vous nous apprenez. Moi j'étais loin de me douter. Après j'imagine que ceux qui se déplacent un petit peu en avion, etc., ça va être un petit peu plus. Celui qui va à pied au bureau, un petit peu moins. Ça reste quand même important. Comment on se situe par rapport à des études par rapport à nos voisins étrangers, proches, allez, les Européens? On est dans le haut de la fourchette, dans le bas de la fourchette? On est comment en France?
Alors c'est très dépendant effectivement de l'énergie, la dépense de l'énergie, et l'énergie est très dépendant du PIB. Les deux sont très liés. Alors certains disent d'ailleurs que le PIB monte quand on dépense de l'énergie, d'autres disent c'est l'inverse,
c'est les pays frugaux finalement qui vont avoir
Bien sûr, aujourd'hui, mais on trouve ces inégalités même en France, hein, ce sont les plus riches qui ont le plus d'activité, qui ont l'impact carbone le plus fort. Quoi qu'on en dise, bien sûr, on peut dire les personnes qui habitent en périphérie de ville utilisent leur véhicule tous les jours, mais les déplacements à la maison secondaire, les déplacements en avion, etc., ça pèse aussi très très lourd.
Bien sûr.
Donc il y a de très grandes disparités sur les impacts carbone, ce qui veut dire qu'il y a de grandes marges de manœuvre, parce que moi je suis non pas un optimiste, mais un engagé dans le développement durable. Et on ne va pas s'arrêter au constat, bien sûr. Ça nous donne des leviers d'action qui sont vraiment très importants. Et on sait maintenant comment on peut réduire l'impact carbone des Français sur les déplacements, sur l'alimentation et sur les bâtiments. On a des solutions qu'il faut mettre en œuvre.
Alors justement, on va terminer avec deux exemples. Un premier près de Paris, en région parisienne. Parlez-nous de ce projet Pompidou au Million.
Alors je cite souvent cet exemple parce que pour moi, c'est un exemple de renouvellement urbain tout proche de Paris. Donc,
c'est où exactement ?
C'est à Colombes, oui. Donc qui va être irrigué par le Grand Paris Express. On est dans un quartier historique avec un tissu qui existe. Et donc il s'agit de reconstruire la ville sur la ville en augmentant donc les services urbains, la qualité de vie pour les concitoyens, tout en réduisant les impacts énergétiques, carbone, etc., et l'atteinte à la biodiversité. Donc c'est vraiment, on poursuit un ensemble d'objectifs globaux dans un tissu urbain contraint. Ils utilisent la démarche HQE, ils sont d'ailleurs certifiés HQE aménagement, ce qui leur permet de prendre en compte non seulement cette vision multidimensionnelle, mais aussi de prouver qu'ils ont atteint les objectifs qui s'étaient fixés. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne peut construire un quartier ou construire un bâtiment sans dire « je fais du bas carbone » ou « je m'intéresse à l'environnement ». C'est devenu courant, évidemment, de le faire. Par contre, le faire et le prouver au travers donc de l'utilisation d'une certification, c'est beaucoup plus exemplaire.
Bien sûr.
On n'a pas trop cette culture encore de l'évaluation de l'efficacité des politiques publiques. L'utilisation d'une certification comme HQE Aménagement permet justement non seulement de valider que les objectifs fixés sont pertinents dans le contexte d'opération, mais aussi de rendre compte étape après étape aux citoyens, aux décideurs, aux riverains, que le projet avance dans la bonne direction. Et si ça ne devait pas être le cas, bien sûr, de réagir, parce qu'on est dans une vraie opération, il y a des aléas, il y a des difficultés, ça dure longtemps, etc. Et donc, voilà, pour moi, c'est un très très bon exemple d'une utilisation vertueuse des outils que l'on diffuse auprès des professionnels pour véritablement faire avancer la cause du développement durable.
Et puis je le disais, vous ne vous cantonnez pas à la France, vous allez au Brésil, au Maroc et même en Chine. Le gouvernement chinois vous a donné aussi carte blanche entre guillemets pour étudier des projets dans des villes, alors petites à l'échelle de la Chine, 300 000 à 1 million d'habitants.
Oui, les Chinois travaillent avec le monde entier, évidemment, parce qu'ils essaient de prendre exemple sur ce qui se fait un peu partout pour définir après leur propre méthodologie. Donc, ils nous ont confié des cités rurales. Donc, on ne travaille pas dans les mégapoles qu'on peut voir. Et ça nous va assez bien parce que, du coup, on a une grande liberté sur les solutions qu'on peut proposer. Et donc on travaille avec le Centre scientifique et technique du bâtiment, avec des urbanistes français, et on commence par faire un diagnostic du territoire sur place pour prendre en compte les contraintes et les opportunités du site. Ça, c'est une grande force de la démarche HQE. Alors surtout en contraste par rapport à ce que font les Chinois, qui ont l'habitude d'utiliser le même plan quadrillage nord-sud.
Quelle que soit la ville, quelle que soit la topographie. Voilà.
Nous, on commence effectivement par prendre en compte la rivière, la colline, les activités, les bâtiments remarquables, et puis les attentes aussi des parties prenantes, c'est-à-dire de la collectivité locale, des habitants, des entreprises aussi localement, pour concevoir une ville qui réponde véritablement aux besoins de la situation.
Ouais, et ben voilà, en tout cas on en sait un petit peu plus sur Alliance HQE. Merci Patrick Nossan, je rappelle que vous êtes administrateur donc, de cette association reconnue d'utilité publique. On aura l'occasion d'en reparler à très bientôt sur nos antennes.
Avec plaisir, merci.
Et maintenant, des villes sobres, agiles et résilientes. C'est le thème des entretiens du cadre de ville qui se déroule ce jeudi 8 octobre depuis la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Un événement à suivre sur Radio Immo.